D'abord, bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir pour moi d'être de nouveau, être chez moi à Genève. C'est fantastique. C'est pas simplement qu'il fait beau à l'extérieur, mais il fait encore plus beau ici à l'intérieur de cette salle. Le message aujourd'hui est très simple, mais très profond. Et en préparant le message aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs façons. Et en fin de compte, je me suis dit, la meilleure façon, c'est de rester tout simple et de rester avec la façon que Dieu l'explique, parce qu'il fait mieux que nous. Celui qui donne sa vie pour ses amis, donner. Dieu est un Dieu qui donne. Paul va citer Jésus en Actes, chapitre 20, verset 35, quand il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelquefois, on n'est pas convaincu de ce proverbe, de ce dicton. Mais Jésus a montré cette valeur, car Dieu est un Dieu qui donne. Il donne de la sagesse à celui qui demande. Il donne le refuge, la protection. Il donne le souffle. Il donne son amour. Il donne son esprit et il donne son fils. En Ésaïe, chapitre 9, quand on voit une prophétie messianique qui parle du Messie qui devait venir, et on utilise les termes comme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, il commence le verset 5 en disant, « Car un enfant nous est né, un enfant, un fils » nous est donné. Dieu est un Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, il donne d'abord gratuitement. Matthieu 10, verset 8, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Dieu donne gratuitement. C'est pas nous qui pouvons dire, regardez ce que j'ai fait pour mériter. Ce don de Dieu, c'est donné gratuitement. Et deuxièmement, ce n'est pas donné juste un petit peu. C'est comme si vous allez quelque part et on dit, OK, on vous donne gratuitement, mais attention, hein, une fois, vous n'allez pas vous resservir, hein, parce que c'est gratos. Hein. Non. Dieu donne gratuitement et il dit également qu'il donne libéralement. En Jacques, chapitre 1, verset 5, Dieu est un Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Quand Dieu donne, c'est la vraie valeur de quelqu'un qui donne. Mais on a vu qu'il donne plein de choses, plein de qualités. Mais on ne peut pas demander plus que quand Dieu décide de donner sa vie. Donner sa vie, ça devient personnel. C'est facile pour nous de donner de notre superflu. On est prêt à aider les autres quand ça ne nous coûte pas quelque chose de trop fort. Peut-être on a une voiture de trop, c'est fastoche de laisser à quelqu'un d'autre. On a une chambre qu'on n'utilise pas du tout chez nous, donc quelqu'un peut venir là-bas, surtout s'il y a une porte de derrière, comme ça on n'est pas embêté. Mais quand ça commence à être encore plus proche, il faut réfléchir quelques secondes avant de prendre cette décision. Mais c'est encore plus quand ça prend notre être. Ici, pour le Christ, il était prêt à donner sa propre vie. C'est pas le fait de donner, c'est le fait de se donner. Galates chapitre 1, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. On n'est plus dans une situation où on est en train de chercher à ce qu'on va donner. C'est une situation où on se donne entièrement. Et Jésus se donne lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi? Il continue dans le verset en disant, « Afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Jésus se donne lui-même. Il intervient personnellement parce qu'il nous voit et il pense à nous et pas à lui-même. Dieu est un Dieu qui n'a pas les yeux fixés sur lui-même. Il a les yeux fixés sur les autres, nous. C'est un Dieu qui vient à notre secours. Un Dieu qui nous voit dans le présent siècle mauvais. Et oui, oui, je sais, il y a plein de personnes, surtout des personnes d'un certain âge, qui disent le 21e siècle, alors, qu'est-ce que c'est dans ce monde maintenant? Mais on sait très bien que quand on était plus jeune, les autres d'un certain âge disaient la même chose. Et ici, ça ne parle pas du 21e siècle. C'était même déjà le cas au 1er siècle. Le siècle quand le prince de ce monde, quand Satan est en charge, c'est toujours un présent siècle mauvais. Et nous avons toujours besoin de Dieu pour nous enlever de cette façon de vivre, cette façon de penser à soi-même. Vous faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mes libertés à moi. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, d'accord? Et on est amis. Non, c'est très superficiel. Ce n'est pas la façon que Dieu agit. Lui, il intervient pour dire, je ne pense pas à moi, je pense à vous. Je viens à votre secours. Il donne sa vie. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Non pour être servi, mais plutôt pour servir. Il est venu et il s'est donné pour voir comment il pouvait être au service des autres. Dans l'Ancien Testament, en Exode 21, on explique les situations, il y a toutes sortes de règles. Mais il y en a une. Si moi, je viens chez vous et vous avez votre bête, je ne sais pas quelle sorte d'animal, et moi, pas très intelligemment, je fais en sorte que votre animal arrive à avoir un accident. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais remplacer ton animal qui maintenant est mort, malade ou autre, avec un des miens. Et de la même manière, quand il y a un être humain qui fait ce qui n'est pas bon, il faut le remplacer. Alors, regardez autour de vous. Vous n'avez pas besoin de simplement regarder vous-même. Et vous regardez autour de vous et dites, mais écoutez, il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont moches. Hein? Je ne dis pas à l'extérieur. Nous avons tous fait des erreurs. C'est beaucoup plus facile d'admettre les erreurs des autres. Donc, maintenant que vous avez regardé les autres, maintenant vous pouvez regarder vous-même. Vous pouvez oser vous regarder dans le miroir, mais pas le miroir physique, le miroir symbolique. Vous pouvez rester dans un feuille pendant 5 minutes sans vous inquiéter de trop. Parce que quand on commence à réfléchir, on dit, mais aujourd'hui j'ai fait ça, aïe, ça c'était pas bien. La semaine passée, j'ai fait cette gaffe-là, j'ai dit telle et telle chose à telle et telle personne. Et on commence à voir, on n'est pas aussi superbe que cela. Au moins, on n'est pas aussi superbe qu'on voudrait donner comme impression aux autres. Et là, on commence à comprendre. J'ai besoin d'être remplacé. J'ai besoin de me remplacer avec un autre moi. Et Jésus a compris. Dieu le Père a compris. Il fallait avoir quelqu'un qui était prêt à donner la rançon. Quelqu'un qui était prêt à servir et donner sa vie. Celui qui donne sa vie. Pourquoi la rançon? C'est justice. Oh, vous savez très bien, si vous êtes parent, vous dites, enfant, il ne faut pas faire ça, si vous en avez plus qu'un enfant. Hein, il ne faut pas faire ça. Et vous avez un enfant qui essaie de jouer le petit ange. Regarde, maman, moi, j'ai pas fait. Puis il y a l'autre qui le fait. Et qu'est-ce que le premier va faire? Moi, je me suis privé de ça et ça et ça pour te plaire, maman. Hé, celui-là n'a pas fait, hein? Fais quelque chose, maman, tout de suite. Punition. Il le mérite. N'est-ce pas dans notre nature humaine? On veut la justice quand ça concerne quelqu'un d'autre. Quand ça nous concerne, nous, ça c'est autre chose. Mais Dieu est un Dieu qui est juste. On voit ceux qui ont raté, qui ont fait le péché. une rançon est nécessaire. Comme avec les animaux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il faut être juste. Mais également, comme on a lu dans le verset de Galates, chapitre 1, il faut faire quelque chose, il faut avoir une rançon pour nous enlever de ce monde, de cette situation néfaste pour nous, de ce siècle mauvais. Il faut intervenir. Alors, il y a un deuxième dicton, encore de la bouche de Jésus, des sortes d'énigmes. On dit, c'est un peu un paradoxe, c'est le contraire, je ne comprends pas. Ça se trouve dans presque chaque évangile. Moi, je vais citer de Marc, l'évangile de Marc, selon Marc, chapitre 8, verset 35. « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. » Vous pouvez répéter ça une deuxième fois, j'ai rien compris. Pour sauver ma vie, je dois la perdre. Et si je perds ma vie, je la sauve. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme j'ai dit aujourd'hui, ce sont des choses très très simples dans la parole, mais très profondes. Très très profondes. Je ne peux pas vivre ma vie comme j'ai tendance à vivre cette vie, sinon ça va être une simple existence et j'ai perdu la vraie vie. Je dois mourir à cette façon de vivre et remplacer ce moi avec un autre moi afin de vraiment vivre. Ça devient trop compliqué. Mais ce n'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Vraiment la réalité. Je dois perdre ce moi. Mais au moins, il nous aide en Marc, parce qu'il dit « Quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile. » Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Tout simplement, c'est la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que nous avons la possibilité d'avoir la vraie vie, que Dieu nous offre en son Fils Jésus-Christ. Nous avons quelqu'un qui était prêt à payer la rançon afin de nous donner la vraie vie. Autrement, celui qui donne sa vie pour nous donner la vie. À cause de moi. Non, ma vie ne devrait pas tourner autour de moi. Je ne suis pas le centre, je ne devrais pas être le centre de ma vie. Tout ce qui se passe dans la journée ne devrait pas être en termes de « Robert veut ceci, Robert veut cela, il faut faire ça pour Robert. » Là, c'est pas bon. Ce moi doit disparaître afin que son moi puisse grandir. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple du monde, mais je vais l'utiliser. Et je ne suis pas un chef cuisinier, je suis pas un cuistot. Ne vous inquiétez pas, Lydia, je ne vais pas être en concurrence. Mais un yaourt, au moins la façon que ma femme fait les yaourts. Il faut commencer avec un yaourt de quelqu'un d'autre ou déjà qui est là pour faire d'autres yaourts. Donc elle a un petit pot de yaourt, elle garde dans le frigo et avec celui-là, elle en fait 12. Et je prends cet exemple pour dire dans un sens, c'est un peu comme le yaourt. Nous avons besoin de voir le yaourt, le premier pot qui se donne. Et on dit, il n'y a même plus le premier pot. Mais est-ce que le premier pot est vraiment mort? Non, il y a un peu de ce premier pot dans tout le reste. Et c'est la façon que Dieu, il meurt, il donne sa vie pour que sa vie puisse être dans tous les autres pots. Et voilà les pots de yaourt. Et donc, nous avons cette super possibilité de vivre, mais pas grâce à moi, mais grâce à son moi qui arrive à être ici dans ce petit pot de yaourt. 1 Jean chapitre 5, verset 12, il dit, « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce qu'on peut être plus simple que ça? Vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie. Vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Le monde essaie de nous dire, vous pouvez arriver à la destination finale de cette façon et cette façon ou cette façon de faire cette façon. C'est pas possible. Vous voulez la vie? Il faut avoir le Fils de Dieu. Vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Pourquoi nous, on n'arrive pas et on complique les choses? Jésus va donner un meilleur exemple que l'exemple de yaourt. J'ai cité le passage en Marc 8, mais un passage parallèle qui parle de ce fait qu'on a besoin de perdre la vie pour la trouver, c'est en Jean 12. Et Jean 12, il va dire la même chose, mais avant, il dit ceci. Voilà la métaphore de Jésus. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, le grain de blé, meurt et on dit « Au revoir, c'est fini ». Mais comme on a déjà vu avec la scène ce matin, il est vivant, il est ressuscité. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que lui, le fait que lui, il meurt, ça pousse. Et si vous n'avez pas envie d'être un pot de yaourt, d'accord, je vous donne une deuxième chance. Vous êtes un grain de blé. Mais vous n'avez pas commencé avec rien. Le départ, c'était la mort du Christ. C'est le grain de blé qui est mort et ça produit beaucoup de fruits et voilà le fruit. Donc, quand vous voulez, vous êtes un fruit ou vous êtes un yaourt, ça m'est égal. À vous de choisir. Mais, il y a une chose qui ne change pas. Vous n'êtes pas, excusez-moi l'anglais, vous n'êtes pas un self-made man ou self-made woman. C'est pas vous. Vous n'êtes pas arrivé au point où vous êtes grâce à vous. Si vous êtes arrivé quelque part, si vous êtes en train de vivre, vraiment, pas exister, vivre, c'est grâce à lui en nous. Colossiens 3, verset 3. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort. On ne veut pas que quelqu'un arrive chez nous et dire, excusez-moi, mais quand je vous regarde, j'ai l'impression de voir un cadavre, un mort. Hein? Mais si on comprend qu'on est tous dans le même bain, ça va un peu mieux. Mais ça va encore beaucoup mieux quand on sait qu'il y a une solution à cela. C'est que on peut être mort, on peut vivre, et on a l'impression que tous les matins, c'est juste de, on se lève, on se couche, et on ne comprend pas du tout pourquoi on vit, et on cherche à remplir notre journée avec les passe-temps. On veut simplement passer le temps parce qu'on ne supporte pas de vraiment apprécier et de vivre dans le moment. Et c'est là où il dit, acceptons le fait que nous sommes morts et qu'on peut trouver la vraie vie et c'est caché. Si j'arrive ici et je vous annonce, ne vous inquiétez pas, tout le monde restez bien assis parce que c'est juste une métaphore. Il n'y a pas de diamant caché là derrière. Mais si j'étais en train de dire que j'ai caché un diamant de 10 000 euros derrière, plusieurs seraient debout en train de le chercher. Je vous annonce une bonne nouvelle encore supérieure à celle-là. Il y a un trésor, la vraie vie, et c'est caché en Christ, comme Paul dit à l'église de Colosse. La vie se trouve en Christ. Il est mort pour nous. Il donne sa vie. Celui qui donne sa vie pour ses amis. Il donne sa vie, comme Paul dit à l'église d'Éphèse, il donne sa vie, il s'offre, c'est une offrande, un sacrifice que lui, il donne pour nous. Mais qui est ce nous? Comment est-ce qu'on va définir le terme ami? Il faut qualifier quelque chose. nous. Si c'est à nous de donner la définition, on va dire il y a des personnes qui aiment Jésus et des personnes qui disent « je suis ennemi de Jésus ». Mais ce n'est pas la définition aujourd'hui. Il n'est pas en train de voir ce que nous en pensons de lui. Il donne sa vie à ses amis. Dieu, le Père, fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En Luc chapitre 7, les personnes en train de parler de Jésus ont dit, « Jésus, mais c'est celui qui est, et voilà la phrase, ami des péagers et pécheurs. » Les marginaux, les collecteurs d'impôts étaient vraiment détestés à l'époque. Les pécheurs, et bien sûr tout le monde est pécheur, mais là quand ils disaient pécheurs, c'était pécheurs avec un P majuscule, hein. C'est ceux que quand on les passe dans la rue, tu vas de l'autre côté, le trottoir de l'autre côté. Hein? Et Jésus les appelle amis. Mais ce n'est pas assez clair. Dans le livre des Actes, il y a une autre fois qu'on cite Jésus, quand on parle de Jésus, pour définir Jésus, on dit, c'est celui, Actes 17, 25, c'est celui qui donne à tous sa vie. Le souffle de toutes choses. Celui qui donne sa vie à tous. Celui qui donne sa vie à ses amis. Alors, conclusion. Pour Dieu, tout le monde est son ami. Mais on a lu tout à l'heure, cette possibilité s'est ouverte à tous. Mais comme on a lu tout à l'heure en Jean 15, on est son ami si nous sommes prêts à faire sa volonté. C'est-à-dire, il offre, il veut servir tout le monde. Mais après, il dit, c'est à nous, le libre choix. C'est à nous de dire, je veux être son ami. Moi de mon côté. Lui, tout le monde est son ami. Est-ce que j'accepte d'être son ami de mon côté ou je refuse? Si je veux être son ami, Jean 15, je vais faire les choses qu'il demande. Là, si vous faites ce que Dieu demande, vous êtes amis de Dieu. Un papa est prêt à se donner pour ses enfants. J'espère qu'il est prêt à se donner aussi pour sa femme. Mais pour tous, franchement, vous n'avez pas besoin de rester là longtemps, hein? Sans penser à quelqu'un, oh, certainement une personne. Allez, laissez-vous réfléchir un peu. Je suis prêt à aimer celui-là, celle-là, celui-là, celle-là. Oups, non, pas celui-là. Jésus, 100%. Même ceux qui sont en train de le faire souffrir. Même ceux qui l'ont rejeté. Pour tous. Donc aujourd'hui, si vous avez l'impression, mais tu sais, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas possible. Dieu peut aimer les autres qui sont les petits saints, qui portent les masques et on croit que ce sont les petits saints, mais pas moi. C'est pas vrai. Jésus veut être l'ami de tous. Ça veut dire tout le monde ici, y compris. Il n'y a pas d'exception. Mais pourquoi? On a déjà vu deux ou trois possibilités, mais la vraie raison derrière, c'est l'amour. Jean 3, 16. Est-ce qu'on peut le citer ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé. Il a donné ce Fils, et pourquoi? Afin qu'on puisse avoir la vie. Celui qui donne sa vie pour ses amis par amour. L'Évangile est simple, très simple. Malheureusement, nous n'arrivons pas à saisir, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Alors Dieu doit montrer quelque chose qui était prévu depuis longue date. C'est en Lévitique 19, 34. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est Lévitique 19, 34. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pendant des siècles, on ne voyait pas quelqu'un qui était capable de faire ça correctement. Je voudrais lire avec vous quelques versets de 1 Jean 3 avant de finir. 1 Jean 3 à partir de verset 11. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous avons passé de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qui voit le frère dans le besoin et qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Mais en action et en vérité. Et je dirais que comme pendant des siècles on n'arrivait pas à montrer cet amour en action, en vérité, Dieu a décidé de se mettre en action et en vérité. Et Dieu le Père a envoyé son Fils. Et là, sur la croix, il est mort pour montrer comment il faut aimer son prochain. Et si on le fait, verset 14 de 1 Jean 3, il dit, « Nous passons de la mort à la vie. » Comment? Regardez bien verset 14. « Nous passons de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous avons besoin d'être comme lui. Mais lui, il a montré l'exemple. L'exemple de celui qui donne sa vie pour ses amis. Alors, quand on voit en Jean 13, quand on voit en Jean 15 le fait que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres » et il dit en Jean 13, 5, 34 que c'est un nouveau commandement, on sait très bien pourquoi c'est nouveau. C'était là depuis le livre de Lévitique. Ce qui était de nouveau, c'est la phrase « comme je vous ai aimé ». C'est que maintenant, Christ a mis en action ce que Dieu voulait déjà depuis longtemps. Et donc, nous ne pouvons pas dire, « Mais écoute, moi je vais aimer quelqu'un à ma façon et c'est bon, Dieu est content. » Et lui, je vais aimer de sa façon et Dieu est content. Non, nous allons aimer à la manière que le Christ aime. Voilà pourquoi dans le monde, quand on parle de l'amour, et les personnes disent, tout ce qu'il faut faire, c'est aimer. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas simplement le fait d'aimer. Il faut aimer avec l'amour du Christ. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ce matin, ce message simple, mais c'est un message radical. Radical. On ne peut pas vivre d'une autre manière. On doit mourir et vivre à sa manière. Il y avait une fois un photographe qui a pris une photo après une guerre. Une guerre où il y avait énormément de destruction. Et la photo était un oiseau mort. Et les gens demandaient au photographe, il n'y a rien de spécial, on peut faire une meilleure photographie que ça. Juste au moment qu'on a compris et que quelqu'un a passé sur scène, l'oiseau était en train de couver trois petits oiseaux vivants en dessous. C'était la mère qui a donné sa vie pour assurer que les trois petits oiseaux pourraient survivre. Et voilà l'image de ce que le Christ fait pour nous. On voit un monde de destruction. Et on dit, c'est pas possible, je peux pas vivre dans ce monde-là. Et le Christ, il nous couvre, il nous protège. Et nous, grâce à sa mort, nous avons la vie. Nous sommes appelés à vivre, à aimer comme le Christ a fait. Que Dieu nous aide à être comme lui et être celui qui donne sa vie aux autres. Ce n'est pas toujours le fait de mourir physiquement. Il y a des personnes qui disent, tu sais, ça serait beaucoup plus simple. Je prends un couteau, fini, j'ai montré à Esteban que je l'aime. C'est encore plus difficile de supporter les uns les autres, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Et de continuellement, chaque matin, de dire, je meurs à moi ce matin. Je vis aujourd'hui pour les autres. Et le lendemain, je dis, mais tu sais, hier j'ai vécu pour les autres. Aujourd'hui, c'est ma journée, hein? Non, 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 non. Je meurs à moi encore aujourd'hui. Je vis pour les autres. Comment faire en pratique? Je vous invite à être là encore dimanche prochain pour voir comment mettre en pratique, pas simplement de regarder celui qui donne sa vie aux autres, mais de voir comment nous pouvons le faire en pratique aussi. Que Dieu soit loué.